France Culture.
Oh, des noisettes.
France Culture.
Deux cafés.
Le book club.
Du coup, vous allez pas dormir.
Je me couche à 6h du matin.
Oh, donc pas de problème alors.
Non.
Bah, je me rends pas compte, ça dépend des obligations.
Ah non, mais j'ai pas d'obligation.
Ouais, voilà.
Faut que je mette le casque ou pas, hein?
Non, pas forcément.
Dans la bibliothèque de Thomas Lévillan.
C'est juste que j'ai demandé.
Ouais. Dire,
parce que des fois, on se fait engueuler quand on met le casque. Alors.
Mais parce qu'en fait, c'est pas très heureux généralement dans les...
Bah là, le son est incroyable.
Oui. C'est juste qu'on a tendance à parler un tout petit peu plus bas.
Ah oui, d'accord. Mais moi, comme je parle trop fort... Tout...
Marie Richel.
Bah voilà. Vous avez fait de la peinture contemporaine à la fois une pratique et un objet d'étude, Thomas Lévillan. Votre engagement dans cet art est profond et pluriel à différents endroits. Critique, commissaire d'exposition, regardeur, intervieweur, d'autres artistes et peintres, évidemment. La pluralité des vies, c'est votre lot, de toute façon, car on vous sait aussi, par ailleurs, comédien, scénariste, réalisateur, illustrateur. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque d'un peintre aux mille vies ? Eh bien, au moins, une tragédie de Sophocle, un roman de Neige Sino, un proème de Francis Ponge, un texte de Reznikov et un cours de peinture, quand même. Dans un plan que vous nous avez transmis avant l'émission, tous nos invités n'ont pas ce même zèle, on découvre un classement très précis, les dictionnaires en haut à gauche, la poésie à l'autre bout à droite, et si l'on descend tout en bas, on trouvera la pensée de l'image. Dans un autre plan, d'une autre bibliothèque, là ce sont des dizaines et des dizaines de catalogues d'expositions qui sont regroupés par mouvement ou par artiste, sans oublier un pan entier de la bibliothèque intitulé « Fin du monde ». Bref, vous avez l'air d'avoir un goût pour ça, vous êtes au bon endroit, on est au bon endroit. Merci Thomas Lévillan d'avoir accepté de déballer votre bibliothèque pour le Book Club. Bienvenue chez vous.
Merci Marie.
Je sors les deux plans et les photos. Franchement, quand je dis que tout le monde n'a pas ce zèle, on pourrait dire aussi cette générosité ou cet engagement. Donc on a reçu, en plus de ce qu'on demande habituellement, qui est déjà un travail conséquent de choisir des textes, etc. Je les sors. Des petits plans. Moi, j'adore les petits plans en plus. Et des photos. Parce que voilà, il y a certains épisodes des bibliothèques du Book Club qui sont tournés in situ et d'autres qui sont tournés en studio. Mais là, vous mixez les deux et on se retrouve avec quelques photos de votre bibliothèque et un plan. Tout ça pour dire que ça a l'air d'être une chose, sinon sérieuse, en tout cas pensée.
Oui, bah c'est très important parce que c'est presque les seuls objets que j'ai chez moi. C'est-à-dire que j'aime pas trop les objets. J'ai un appartement très vide avec pas grand-chose à part... j'ai l'atelier de peinture et puis c'est tout. Et les seules choses où je mets de l'argent, c'est pas les vêtements, c'est un peu le restaurant, et puis c'est les livres. Donc j'achète beaucoup de livres comme ça, beaucoup de livres d'histoire de l'art, enfin de peinture. Et oui, le classement ou la bibliothèque, ça a toujours été très important pour moi parce que c'était une manière de. Alors j'ai pas fait d'études, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris tout ça, mais c'est un peu on apprend les choses, on apprend un peu aux Beaux-Arts. Il y a pas de structure, quoi. On n'est pas structuré. Donc moi j'ai appris un peu mes humanités comme ça au hasard des rencontres et au hasard des livres. Donc oui, les livres c'est un endroit que j'achète facilement et que je donne aussi facilement maintenant. C'est-à-dire que je garde pas tout. Voilà, tout est pas. Et là, cette bibliothèque qui est dans une salle toute petite de mon appartement qui est complètement remplie d'objets, c'est l'endroit où je mets. Où il y a tout ce petit monde, quoi, voilà. Et c'est vrai que je la pratique presque quotidiennement.
Ah oui, c'est-à-dire la pratiquer quotidiennement, ça veut dire quoi ?
Je sors des catalogues, je réfléchis à un truc, je vais voir un texte que j'ai retrouvé. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est très quotidien. Et puis j'ai une autre bibliothèque qui est dans le salon, pour le coup, qui est toute petite aussi. C'est tous les livres pas lus. Donc il y a deux rangées de livres comme ça. Donc là, en ce moment, il y a plein de livres sur la fin du monde, où ils cherchent des solutions, comment faire. Et voilà, et là, je les pioche.
J'ai dit bibliothèque fin du monde, parce que vous avez
oui.
Mais ça pouvait être bibliothèque solution, du coup.
C'est toujours pareil.
C'est plutôt solution,
voilà.
Plutôt fin du monde.
C'est les deux, voilà. Ça oscille, voilà, entre une analyse précise de comment ça va pas et comment on peut faire. Voilà, avec j'essaie de rechercher aussi dans des choses, je sais pas, genre William Morris ou des solutions comme ça, d'autres des choses du passé qui peuvent revenir. Voilà.
Oui, vous dites j'ai une pratique quotidienne de la bibliothèque et moi, en découvrant ces plans et voilà la manière dont vous avez organisé ça sur papier. Je me suis dit, tiens, ça ressemble vraiment à un outil de travail. C'est-à-dire, ça ressemble à quelque chose qui, à la fois, est pensé, mais sert aussi à penser. Parce que comme c'est déjà organisé, on sent que c'est la route vers l'organisation d'autres idées, vers...
Oui, puis il y a un truc très simple, c'est que moi, quand je suis à l'atelier, je peins un arbre, mais d'un coup, je peux dire, bon, comment Watteau peint l'arbre, comment Boucher peint l'arbre, comment Fragonard va faire, et puis, moi, je sors les livres, et puis je regarde Manet, tout ça, donc d'un coup, je peux sortir une dizaine de livres, juste chercher un tableau que j'ai dans la tête, et puis ça traîne comme ça à l'atelier, puis ça contamine au fur et à mesure, sans qu'on s'en rende compte, quoi. Ça, je sais pas comment ça passe, mais ça passe, voilà.
Et il en va de même pour les livres avec du texte dedans. plus que des images.
Oui, alors ça, c'était un truc un peu particulier, c'est que moi j'ai mis beaucoup de temps à aimer les romans.
Et donc j'ai mis beaucoup de temps, ça veut dire quoi?
Bah, j'ai peut-être commencé à vraiment lire des romans vers 30 ans ou un truc comme ça. Enfin, j'en ai lu un petit peu, mais j'étais beaucoup plus dans les essais. C'est-à-dire, je pense que j'étais très angoissé de la réalité et que d'un coup les livres, ça devait être la vérité, quoi. Donc j'avais besoin comme ça d'avoir des blocs. Donc c'est de la philosophie. Je suis devenu très ami quand j'avais 19 ans avec Clément Rosset. Donc j'ai commencé à lire vraiment ça sérieusement en lisant tout ce dont il citait dans les livres. Et puis après, je pouvais lui en parler. Donc c'était une école géniale. C'était vraiment une super relation comme ça. Et donc je partais plutôt dans les idées que dans les romans. Puis plus ça va, plus la poésie et les romans me prennent, quoi. Voilà. Mais j'ai peut-être découvert que j'avais un inconscient un peu tard dans la vie. Voilà.
Est-ce que ça fonctionnait? Vous dites, j'étais face au réel, trop angoissée pour le vivre sans aller chercher du vrai ou du théorique solide dans les livres. Ça marchait?
Ah oui, oui, bah oui. Bah, par exemple, on va peut-être en parler, mais un livre comme le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, qui est un livre de un essai de 2002, voilà, qui raconte la catastrophe. C'était des endroits où j'ai dit, ah bah voilà, on est. Alors généralement, quand on lit ce genre de livre, en plus, on a l'impression d'avoir raison avant, c'est-à-dire qu'on vient voir.
Ah mais c'est ça que je pensais.
Voilà, exactement. Donc, Clément Rosset, c'était très comme ça. Nietzsche et Pascal aussi. Voilà. Et donc c'était toujours un truc de, ah bah oui, voilà, on n'est pas tout seul aussi. Il y a ce truc-là très important de se rendre compte que j'ai l'impression que c'est tout ça est très très vivant et souvent plus vivant que la vie, quoi. Voilà, ça c'est
ce que vous trouvez dans les livres.
Ouais, ouais. Et donc ça c'est aussi un truc que j'ai toujours un rapport à la tradition ou à, on va dire, à la culture, où c'est pour la vie, et c'est souvent plus vivant que la vie elle-même. Ça donne beaucoup de liberté, beaucoup de choses.
C'est un pour la vie que vous entendez dans l'histoire du temps, c'est-à-dire c'est pour longtemps, ou c'est un pour la vie au sens de
non,
la vitalité?
Pour la vie, ça te rend vivant. Ouais. Ça on va dire que c'est un exhausteur de goût. Ça remet de l'énergie dans la vie. Ça remet, donc ça c'était très enfin, c'est une chose très joyeuse, quoi. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je cherche pas le formel ou quelque chose de très stylisé ou tout ça. Moi, c'est vraiment en rapport avec c'est vraiment la littérature ou, on va dire, les écrits en rapport avec la réalité, quoi. C'est comment mieux vivre, comment mieux habiter le monde. C'est des choses qui m'intéressent vraiment.
Ouais. Quand est-ce que vous avez commencé à avoir le goût de la lecture?
Alors.
Donc, vous dites tardivement, à peu près 30 ans pour les romans.
Oui.
Mais en même temps, vous parlez d'avoir lu de grands philosophes, notamment au contact de Rosset à 19 ans.
Ouais, les essais, c'était tout de suite. J'avais 15 ans, je lisais des essais. Après, moi, j'ai eu beaucoup de la BD. Je sais pas, voilà. D'ailleurs, je voudrais parler d'un truc, c'était la mort de Bernadette Després. C'était la seule qui dessinait Tom et Nana. Et ce que j'ai trouvé dingue, c'était que je l'avais pas dans mon esprit. Je pense que très peu de monde avait dans son esprit, et ça touchait beaucoup de gens qu'elle décède, alors que c'est quelqu'un qui avait amené de la fantaisie comme ça, enfin amené un truc comme dans nos vies, dans nos enfances très très intimes comme ça. Mmh. Et en fait, on n'avait même pas vu l'auteur. Et je trouve ça très très beau. J'ai trouvé ça beau qu'elle soit discrète. Enfin, j'ai trouvé ça hyper émouvant de se dire, bah voilà, cette petite dame, on l'a jamais vue. Enfin, il y a 3 vidéos sur YouTube, je suis allé voir après. Ça, c'est trop émouvant de se dire que
époque aussi pas... peut-être. Peut-être on est dans des moments de plus grande médiatisation. Je sais pas.
Non, je pense qu'elle était discrète, et puis quand on l'a...
Voilà. je n'en sais rien en plus.
Ouais, non, je pense qu'elle avait un truc... Et ce que j'ai trouvé, enfin voilà. Et donc oui, moi je pensais à ça par rapport au J'aime lire, c'est que J'aime lire, il y avait j'avais un rapport à la collection très, les enfants sont très collectionneurs comme ça. Donc les J'aime lire, il y avait des tranches des J'aime lire, et ça faisait le dessin de Tom Tom et Nana, et ça c'était un cauchemar si j'en loupais un. Donc voilà, ça c'est un truc commercial très très bête, mais vraiment ça marche trop bien sur les enfants, c'est horrible. Et le fait est que je lisais que les Tom Tom et Nana et pas l'histoire, quoi. Voilà. Et
donc, tout ça pour dire que vous avez aimé la BD aussi.
La BD,
très tôt.
Voilà, très tôt, Tintin, Astérix et Spirou et Fantasio et tout ça, mais de manière, Gaston et Agathe, mais de manière très, et presque une angoisse de pas avoir tout lu. Il y avait ce truc là de la collection qui était très fort, et j'ai un petit toc, c'est que dès que je suis devant une bibliothèque, je lis les tranches, mais genre je peux pas m'en empêcher, quoi. Ce qui fait que quand je suis chez des gens, enfin par exemple si on mange et qu'il y a un délire à côté, je peux pas, enfin ça me déconcentre tout le temps, et ça m'a donné une grande culture fausse de savoir qui a écrit quoi, voilà, enfin j'avais ce truc là un peu.
Mais est-ce qu'elle est fausse en fait, parce que le fait de savoir que les choses existent,
oui,
c'est
oui,
déjà
c'est
quelque chose,
bourgeoise, ouais. Ouais, ouais. Mais il y a quand même ce truc là très étrange où je pourrais parler de plein de livres que j'ai pas lu, quoi. Voilà, c'était...
Et vous faites ça quand vous allez chez des gens, en dehors de votre attirance presque visuelle pour les titres, mais vous regardez la bibliothèque des gens,
ah
ça
oui.
vous raconte quelque chose, par
ah
exemple?
Oui, toujours. Il y a même il m'est arrivé des trucs dont je peux pas raconter à la radio, mais oui,
on a tellement envie.
Non, mais je peux pas raconter, c'est vraiment trop triste, mais c'est.
Ah merde, ok.
Enfin, en gros, j'ai découvert une affaire de tromperie en regardant une bibliothèque, quoi, voilà. Non, mais c'est drôle, il y a ce. Enfin oui, je trouve que les bibliothèques c'est vachement intéressant. Ouais. Et puis encore une fois, c'est des lieux de vie, quoi. C'est des lieux d'intimité, voilà. C'est pour ça que la mienne est cachée dans une maison.
Ah oui, pour qu'on ne la voit pas.
Bah, elle est pas très accessible, quoi. Voilà, je la montre pas très.
Mais comme un geste de pudeur, quoi.
Ah oui, c'est mon nid. C'est ouais. Pas, voilà, ça regarde que moi. Ouais.
Ça regarde que vous, mais vous allez Thomas Lévillaine en parler beaucoup pendant cette émission.
Mais oui.
Non, mais ça, peut-être si ça vous, je vais aller à l'encontre de cette pudeur un instant, mais par exemple, montrer votre peinture pour vous, c'est un geste moins impudique que montrer une bibliothèque.
Bah oui, parce que oui. Enfin, je sais pas si c'est, j'exagère peut-être un peu, hein, mais en tout cas, je laisserai pas rentrer les gens comme ça. Non, c'est. Moi, j'aime bien le quant à soi, voilà. Je trouve ça important d'avoir des mondes à soi, des secrets. Voilà. Mmh.
D'ailleurs, souvent, vous parlez de la solitude qu'impose et de la lenteur qu'impose la peinture que vous pratiquez. En préparant cette émission, j'ai pensé à la solitude qu'offrait la lecture ou que demandait la lecture. Est-ce que ce serait des endroits où pourraient se rejoindre ces deux choses-là?
Ben, dans ma vie, j'ai eu un moment assez étrange où je suis allé vivre avec ma grand-mère en Picardie pendant 3 ans. J'avais 25 ans et donc là, j'avais peinture-lecture. Il n'y avait que ça à faire.
Et grand-mère?
Moi, ma grand-mère, je ne la voyais pas beaucoup. Mais okay. Je m'occupais d'elle un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. C'était dans une grande maison. Je vivais comme un... Mais en gros, oui, je lisais comme ça de 14h à 18h tous les jours. Et c'était un grand moment où j'avais vraiment beaucoup lu. J'avais aussi un truc un peu maniaque qui était de recopier les livres. C'est-à-dire quand je prenais des notes, je recopiais. Donc j'ai une base de données énorme avec tous les textes et tout ça. Alors maintenant, j'ai un peu arrêté, j'ai plus le temps non plus. Mais j'avais, je sais pas, peut-être 8000 pages comme ça de recopiage. J'avais recopié Céline, blablabla, enfin voilà. Et c'était des... Et ça m'a toujours beaucoup... Clément Rosset, j'ai beaucoup recopié par exemple aussi. Et donc dès que j'ai une idée, comme ça, je cherche une idée, bah hop, je fais un pomme F pour chercher le mot clé.
Vous l'avez recopié à l'ordinateur, vous
à
avez
la main. Ouais. Ouais. Alors maintenant, on peut faire ça avec son iPhone, on n'a plus qu'à faire un copier-coller. Vous savez, vous prenez en photo, vous glissez, vous faites un copier-coller du texte, quoi. Donc c'est génial.
Ah non, je ne savais pas.
Ah non, mais ça je vais vous apprendre, ça va changer.
Ah non, on photographie une page.
Ah non, mais ça, je vais vous montrer, vous allez adorer.
Mais j'ai pas d'iPhone. Et après, on fait copier-coller et ça transforme.
Ça
transforme en texte.
Comme un texte. Ouais,
c'est
oui.
Extraordinaire.
Ah, oui. Et enfin bon. Oui, non, ça, c'est. Bah, même pareil, les EPUB, là, maintenant, les livres numériques, moi, je trouve ça génial pour ça, quoi. Ça gâche un peu le moment où je passais 4 heures par jour à recopier les textes, mais c'était. Puis j'ai l'impression de les écrire aussi, un peu. C'était ça qui était joli. Et ça, d'ailleurs, je raconte ça parce que la littérature, il y a des fois où j'étais quand même touché par ça. Alors, c'est pas un très bon livre, mais c'est Une vie divine de Philippe Solers. Je sais pas pourquoi Philippe Solers, moi, c'était quelqu'un que je regardais. Évidemment, il y avait une éducation de la télévision où il brillait et tout ça. Et dans ses livres, je le trouvais bien meilleur, bien plus intéressant, très, très vivant, justement. Et en fait, Une vie divine, ça m'a changé la vie parce que j'étais dans une situation où je travaillais pour la télévision, je peignais dans mon coin, ça marchait pas si mal et tout ça, et j'étais pas du tout heureux de ma vie. Et Une vie divine, j'ai vu comment il vivait, je me suis dit, bon, allez, je vais vivre avec ma grand-mère à la campagne. Donc c'était pas, lui vivait entre New York et Venise avec pas tant d'argent que ça, il y avait un truc très vivant comme ça, et moi je me suis retrouvé à dire, bon, bah, je peux changer de vie, j'ai le droit de changer de vie, je suis allé en Picardie, voilà, à Thury-en-Valois pendant 3 ans. Ouais.
Bon, on va entrer dans votre bibliothèque.
Ouais, allons-y.
Toute pudeur abandonnée. Juste après Le Bleu Lagon de Mansfieldia.
Ouais, super.
Le lagon rouge sang, j'ai tellement grincé des dents. Je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Thomas Lévillan. Marie Richeux.
Donc on entre dans votre bibliothèque, dans un deuxième temps de cette émission. Il s'agit pour nos invités de choisir ce qu'on appelle des textes étapes. Chacun l'interprète cette formule à sa façon, des textes qui vous ont marqué. Et quand on vous a posé cette question, Thomas Lévillan, la première chose que vous avez répondu, j'imagine après y avoir réfléchi, c'est une tragédie de Sophocle, c'est Œdipe Roi. Ici dans la Pléiade, la traduction de Grosjean en 1967. Est-ce que vous voulez dire pourquoi ? Est-ce que vous voulez faire entendre le texte d'abord ?
Oui. Alors déjà, j'ai pas trop réfléchi parce que c'est vraiment un texte que je relis très souvent,
okay.
Que je trouve vraiment génial. Enfin,
c'est super.
Qui suis-je pour le dire ? Mais vraiment, j'ai une joie totale à ça. Je trouve qu'il y a une qualité de cruauté que je trouve rarement ailleurs. Enfin, il y a quelque chose de comme ça, très profond. Je trouve ça dingue à quel point c'est d'actualité, que ça se tient de partout. On pense à tout le monde. Enfin, c'est. On pense beaucoup au papa et au grand chef suprême de politique et tout ça. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça que je trouve incroyablement vivace, quoi, ce senti et tout ça. Je suis pas trop intéressé par l'histoire de Freud. Voilà, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment.
C'est intéressant pourtant.
Quoi? non, mais c'est pas le sujet qui me. C'est pas l'endroit qui me touche le plus.
C'est pas ça
que vous
attrapez, en tout cas.
Ce qui me touche le plus, c'est vraiment la capacité à pas voir le réel, quoi. Et à pas, donc ça, Clément Rosset l'a beaucoup utilisé aussi dans un livre qui s'appelle Le réel et son double, où il parle de ça, de l'illusion oraculaire, et comment on voit, mais on voit pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez passionnant, puisque mon travail à moi, c'est de voir, d'essayer de voir le plus possible la réalité.
Voilà. Je resitue, quand même, que c'est 430, entre 430 et 420 avant Jésus-Christ. Puisque c'est un dialogue, vous m'avez proposé qu'on le fasse tous les deux. Donc je me lance, vous avez quelques indications de jeu ?
Oui, mais Oedipe, il n'est pas content.
Il est fâché, d'accord.
Alors ça, c'est un autre truc aussi, c'est une particularité que je ne sais pas pourquoi, c'est que j'adore lire le théâtre. Je sais pas, vraiment, j'ai un plaisir de lecture, je peux pleurer, je peux me mettre dans tous les états, faire les deux personnages et tout ça.
Chez vous, tout seul.
Chez moi, tout seul à lire, enfin juste à lire dans la tête. Je pense qu'il y a le même plaisir que quand on est enfant et qu'on joue avec des bonhommes.
Ouais,
quoi.
Bah oui.
Voilà.
Ouais.
Et moi, j'aime pas trop le théâtre, aller y aller.
Vous le préférez dans les livres.
Je préfère dans ma tête, voilà, et ça peut aller jusqu'à, mais même des trucs genre Sacha Guitry, je peux lire ça vraiment avec grand plaisir, ou Fedot et tout ça, je marche tout seul, quoi. Voilà.
Donc moi, je fais Bonhomme Oedipe.
Alors, vous faites et vous n'êtes pas contente. Hein.
D'accord.
Okay, c'est
je ne suis pas contente.
C'est mon indication de metteur en scène.
D'accord.
On voit le niveau. Mais...
Okay. Non, bah, je vais essayer. J'avoue que j'ai pas...
Il est maître des horloges. Faites le maître des horloges. Voilà.
Ok. Allez, tapis de lecture.
Et moi, je fais Tirésias, qui est donc un aveugle qui sait tout. Hein, voilà. Et là, Oedipe, il est déjà pas content parce qu'il passe son temps à lui demander pourquoi, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi il y a la peste, blablabla. Et puis, tout le monde lui dit les choses et il écoute jamais, quoi. Voilà.
Tirésias ou Oedipe ?
Oedipe
n'écoute pas. Oedipe n'écoute pas.
C'est Oedipe qui écoute pas, oui, pardon.
Donc je fais bonhomme Oedipe qui n'est pas content.
Voilà. Et moi, je fais Tirésias.
Et qui n'écoute pas.
Qu'il est terrible de connaître quand la connaissance est sans profit. Je le savais, mais je l'ai oublié. Sans quoi je ne serais pas ici.
Qui a-t-il qui te trouble tant d'être venu ?
Laisse-moi rentrer chez moi si tu veux bien. Tu t'en trouveras mieux et moi aussi.
Tu n'es ni loyal ni bon envers la ville qui t'a nourri si tu la prives de tes présages.
Je vois que tes paroles ne sont guère pertinentes. Aussi, pour ne pas courir le même risque.
Non, par les dieux, si tu sais, ne te détourne pas. Tous prosternés, nous t'en supplions.
Parce que vous tous, vous ne savez pas. Eh bien non, je ne veux pas dire mon mal, ou plutôt ton mal.
Quoi ? Tu sais, tu ne diras rien ? Comprends-tu que c'est là nous trahir et détruire la ville ?
Je ne veux affliger ni toi ni moi. Pourquoi me questionner en vain ? Tu ne tireras rien de moi.
Oh, le pire des mauvais, car tu mettrais en rage un être de marbre. Tu ne parleras donc pas ? Tu veux te montrer inflexible, intraitable ?
Tu me reproches cette rage. Tu ne vois pas celle qui t'habite. Et moi, tu me blâmes.
Qui n'enragerait de t'entendre parler quand tu n'as plus de respect pour la ville ?
Que je les voile de silence, les faits viendront tout seuls.
S'ils doivent venir, il faut que tu me les dises.
Je n'en dirai pas plus. Livre-toi donc, si tu veux, à l'arrache la plus farouche.
Vous êtes bonhomme Tirésias, très mystérieux en tout cas. Oui.
C'est Tirésias.
Il
connaît le futur.
D'accord.
Il est aveugle.
Okay,
il a été une femme pendant 8 ans.
Voilà, il ne se laisse pas impressionner.
Ah non, il est très calme.
Certes, à ce point de ma rage, je ne tairai plus mes soupçons. Tu sauras que tu me sembles bien avoir ourdi le crime et l'avoir perpétré, sauf que tu n'y mets pas les mains. Si tu n'étais aveugle, je dirais que le crime est de toi seul.
Vrai ? Et moi, je t'ordonne de t'en tenir à la proclamation que tu as faite, de ne plus leur parler ni à moi dès ces jours, car c'est toi l'impie qui souille cette terre.
N'as-tu pas honte de me jeter ces paroles ? Et comment crois-tu que tu pourras y échapper ?
J'y échappe, je nourris la vérité puissante.
Qui t'en a donc instruit? Pas ton art en tout cas.
Toi-même qui m'a poussé à le dire malgré moi.
Dire quoi? Répète donc que je sache mieux.
N'as-tu pas compris? Veux-tu voir si j'ose parler?
Je n'ai pas tout à fait compris. Allons, répète.
Je dis que tu es les meurtriers que tu cherches.
Tu ne m'auras pas impunément offensé deux fois.
Et dirais-je plus pour t'irriter davantage?
Tant que tu voudras, tu parleras en vain. Est-ce que vous êtes satisfait de ce petit Oedipe roi de Sophocle? Qu'est-ce qui vous émeut là-dedans, Thomas Levinan?
Alors déjà, Oedipe, on voit qu'il a déjà entendu la première fois. Il demande de répéter, mais il le dit une deuxième fois. Donc ça veut bien dire qu'il a bien compris. Il ne veut pas savoir, quoi. Voilà. Mm. Il ne veut pas savoir ce qu'on... Il ne veut pas savoir qu'il est l'auteur de tous ses malheurs. Et dans la pièce, avant, il s'est auto-maudit, quoi. Voilà. Et alors, je trouve que c'est à peu près le phénomène humain le plus partagé partout, tout le temps. Et si je devais avoir un exemple...
Ne pas vouloir savoir.
Ne pas croire en ce qu'on sait. Mm. C'est-à-dire, on sait des choses et puis on ne croit pas. Et si je devais avoir un exemple très précis d'aujourd'hui, contemporain, qui est un petit peu sordide, mais c'est comme ça, on pourrait dire que Tirésias, c'est le GIEC. Et là, on est en 2025. L'accord de Paris, c'était en 2015. Et en gros, l'accord de Paris, c'était tous les États qui s'étaient mis d'accord, à part les Américains, pour dire « Ah, on ne va pas dépasser 1,5 degré. » Et en fait, là, en 2024, on a dépassé ce 1,5 degré de moyenne de réchauffement de température. Donc c'est quand même assez fascinant à quel point on sait.
Mais on ne veut pas savoir.
Croit pas.
Et
on n'y croit pas et on ne va pas s'adapter. Enfin, on ne veut pas réfléchir à ça. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est... à quel point le saccage est permanent et partout et qu'on ne veut pas le voir, quoi. Voilà.
Et donc, en même temps, vous avez commencé par dire aussi que il y avait tellement quelque chose dans votre pratique de peintre qui a à voir avec le fait de voir, avec le fait de montrer, que ce texte-là, il travaille aussi cette tension, quoi. Vous, dans votre peinture, vous faites voir et vous regardez, Thomas Levinan.
Alors moi, je travaille presque à voir, parce que c'est une chose qui est assez belle. C'est que quand on dessine, on vérifie ce qu'on voit, en fait. Mmh. C'est-à-dire que la meilleure moyen de montrer qu'on a bien vu, c'est de bien le dessiner, quoi. Alors ça, j'invite nos auditeurs à pas dire qu'ils savent pas dessiner, parce que c'est pas vrai. C'est pas une question de savoir dessiner, il y a pas de technique ou je sais pas quoi. C'est vraiment de juste passer du temps et réessayer encore, rater encore, essayer encore, rater mieux, de pousser cette chose-là pour juste constater comment on voit, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un exercice assez formidable pour
comme
ça.
Comme on dessine, c'est révélateur de comment on voit.
Alors il y a des écarts techniques, voilà, mais il y a en tout cas cette chose-là de bien voir les choses, on peut le vérifier en dessinant, quoi. Mmh. Voilà. En tout cas, moi ce truc d'Oedipe là, je trouve que c'est aussi intéressant par rapport au patriarcat, toutes ces choses-là. on les voit tous comme ça, à se plaindre, à gémir et tout ça, et on est là, mais vous avez tout fabriqué, quoi. Ils ont fabriqué, enfin voilà, il y a ce truc-là de, enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, cette figure-là de la personne qui se plaint de ce qu'elle a créé, j'ai l'impression de le voir partout. Voilà, ça c'est vraiment. Et j'espérerais qu'on arrive à plus croire en Tirésias.
Et quand vous parliez tout à l'heure d'une pratique quotidienne de votre bibliothèque, Thomas Levinan, donc quand même aussi beaucoup tourné vers regarder de la peinture pendant que vous peignez ou pendant que vous pensez votre propre peinture. Par exemple, lire et relire Oedipe roi de Sophocle, donc je répète, entre 430 et 420 avant Jésus-Christ, et y voir en miroir toute cette dialectique de ne pas croire à ce que l'on sait, etc., dans le monde contemporain, ça vous aide à penser? Qu'est-ce que ça produit chez vous, le fait de lire ça?
Ça ramène un tragique grec qui est que, en fait, c'est toujours la même histoire, quoi. Mmh. Donc on ne sait pas si on aura des solutions là-dedans, on va trouver des solutions là-dedans. Mais je trouve que c'est très bien dit. Et par exemple, une des choses qui est quand même étonnante dans Oedipe, c'est que je comprends pas pourquoi il est en rage tout le temps. Dès le début, il est en rage dans la pièce. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je crois qu'il sait qu'il a fait l'amour avec sa mère, qu'il a tué son père. Parce que quand même, il s'est marié avec une femme plus vieille que lui, parce que c'est sa mère. Et puis, il croise un mec sur un chemin et il le tue parce que juste, c'est un truc viriliste de savoir qui passe en premier, quoi. Donc l'enjeu de cette histoire, c'est il y a l'oracle de Delphes qui lui a dit « tu vas faire ça ». Et puis en fait, on me dirait ça et je croirais à l'oracle de Delphes, jamais j'irais épouser une femme plus vieille que moi, quoi. Ce qui est quand même très rare au plus à ce moment-là. Donc il y a quand même je sais pas, c'est un truc qui me fascine, c'est comment...
Notre propre aveuglement à ce que l'on sait de nous, quoi.
Là, par exemple, j'ai fait une exposition en mars qui s'appelle L'impuissance, où je faisais une vidéo, où les gens ils descendaient dans la vidéo et je leur montrais tout ce qu'il y avait de dégradé dans la situation même, qui était de regarder une vidéo très très bête, où il y avait juste des mots comme ça, et je décrivais d'où venaient leurs vêtements, je décrivais qu'il y avait du cobalt dans leur smartphone, et que ça faisait travailler des enfants en République démocratique du Congo, que la peinture qui était sur les murs, en fait, c'est la peinture vinylique pollue absolument la mer, parce qu'il y a des microparticules de plastique partout dans la mer maintenant, et qu'on en retrouve par évaporation en haut des montagnes. Alors voilà, toutes ces choses-là, qu'on sait en fait, c'est-à-dire que tout le monde sait que ça va pas bien, mais encore une fois, d'essayer de construire un regard comme ça sur ces choses-là, c'est je trouve le plus intéressant, c'est-à-dire vraiment changer de paradigme et changer de manière de voir le monde. Il y a un côté hyper triste qui est de dire bah voilà, c'est le saccage, ça va pas bien du tout et tout ça, mais il y a aussi un côté très beau qui est de dire c'est la vérité en fait. Mmh. Et ça m'intéresse la vérité.
En même temps, vous m'avez proposé de me former à une technique d'iPhone. Et d'en acheter un.
Mais ça, merci de.
Oui. De souligner mes propres contradictions.
Non, mais ça, encore une fois. Mais le fait est que c'est. Qu'il y ait un progrès technique, ça, c'est. Je dis, on est content de ne pas avoir mal aux dents, il y a plein de choses. La question, c'est de voir. Ça, c'est des penseurs comme Gunther Anders, qui dit une chose que je trouve très belle, qui dit, on a changé de paradigme à l'humanité parce qu'on a la capacité de s'autodétruire, et donc on arrive dans l'ère du délai. Et donc la question, c'est est-ce qu'on pense à ça ou pas, quoi. Là, je pense qu'on n'y pense pas du tout au fait qu'on est dans l'ère du délai, c'est-à-dire à quel moment on va s'autodétruire.
On
est quand même là-dedans, là, en 2025.
On est complètement là-dedans.
Donc c'est pour ça que...
On est complètement là-dedans.
Et je rigole pas parce que ça me rend pas triste, hein. C'est juste que je rigole parce que c'est la vérité. Donc voilà, on peut pas...
C'est le réel.
C'est le réel, c'est comme ça.
Le deuxième choix de texte dans cette bibliothèque, Thomas Lévillaine, c'est un cours de peinture. Cours de peinture par principe de Roger de Pile. Alors, on est fin 17e.
Oui, alors ça, c'est une particularité que je pense que peu de gens ont dans leur métier. C'est que moi, je suis arrivé aux Beaux-Arts de Paris, je voulais faire de la peinture. Et en fait, il n'y a pas de cours de technique ou il n'y a pas d'apprentissage de qu'est-ce que c'est que la peinture. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation assez étrange.
D'apprentissage théorique ou pratique ?
Pratique. Théorique même, enfin oui, qu'est-ce que c'est que la peinture ? Oui, enfin théorique, comment on peint, quoi. Voilà, comment on travaille, qu'est-ce que c'est que l'exécution ? Et parce qu'il y a tout un rapport, encore aujourd'hui, je dois dire, dans l'école, par rapport à la technique, qui serait chacun trouve sa technique, c'est personnel et tout ça. Et moi, j'avais un rapport comme ça très simple, très un peu naïf, on pourrait dire, au fait que, je joue un jeu qui a 700 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu une grande histoire de l'art. Pourquoi je me priverais d'écouter les anciens, puisque justement, on m'apprend pas. Donc, j'ai appris ma technique de la peinture en lisant des vieux livres, en allant chercher des traités d'atelier. Ça peut être des notes sur l'atelier de Ingres, l'atelier de Jérôme. Enfin, voilà, j'ai mangé ça, mais j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup lu. Des livres techniques aussi, où on raconte les histoires de vernis d'amarre, col de peau et tout ça. Alors, ce qui est très mignon dans les livres techniques, c'est que la plupart ils tutoient. Parce que, voilà, on est entre peintres, donc on se tutoie. Enfin, voilà, il y a un truc très, très chaleureux comme ça. Et là, Roger de Pile, ce qui m'amuse, ce qui me plaît beaucoup, c'est que il décrit comment il faut peindre les choses. Mais en fait, comment il faut peindre les choses, faut d'abord les regarder. Et donc, en disant comment il faut les regarder, en fait, il fait de la tautologie tout le temps. C'est-à-dire, il dit comment est le ciel, comment sont les paysages, comment est l'humidité au loin. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est en fait, ça apprend à regarder. Et c'est des traités d'esthétique, des traités de sensibilité comme ça, qui sont très très beaux, puisque en fait, quoi qu'il arrive, le peintre, même s'il peint une Madone avec un enfant ou des choses comme ça, il est obligé d'avoir un décor, donc d'un coup, il est obligé de s'occuper des matières, des textures, de ce que c'est que les pierres, voilà. Et donc, il y a cette chose-là que je trouve très belle, parce que c'est aussi une forme d'art de vivre que de savoir comment contempler les choses. Et encore plus intéressant, je trouve, c'est l'ekphrasis. Qu'est-ce que c'est que l'ekphrasis ? C'est la description des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas de photographie ou de reproduction et tout ça. Et donc, ils décrivent des longs textes comme ça, où ils décrivent chaque tableau. Et c'est assez magnifique, c'est assez étonnant, parce que d'un coup, l'ekphrasis devient un début de critique d'art. Parce que la manière dont on raconte le tableau est différente selon chaque personnage et tout ça. Donc là, il parle de l'école d'Athènes, par exemple, dans ce livre, qui est vraiment intéressant. Et donc chaque peintre comme ça, chaque critique d'art raconte autre chose, quoi.
Voilà. On lit un extrait ?
Ouais, on lit. Quatre choses sont nécessaires pour rendre un portrait parfait. L'air, le coloris, l'attitude et les ajustements. 1. L'air. L'air comprend les traits du visage, la coiffure et la taille. Les traits du visage consistent dans la justesse du dessin et dans l'accord des parties, lesquelles, tout ensemble, doivent représenter la physionomie des personnes que l'on peint, en sorte que les portraits de leur corps soient encore celui de leur esprit. La justesse du dessin qui est requise dans les portraits n'est pas tant ce qui donne l'âme, et le véritable air que cet accord des parties dans le moment qui marque l'esprit et le tempérament de la personne.
l'on voit beaucoup de portraits correctement dessinés qui ont un air froid, languissant et hébété. Et d'autres au contraire qui, n'étant pas dans une si grande justesse de dessin, ne laissent pas de nous frapper d'abord du caractère de la personne pour laquelle ils ont été faits. Peu de peintres ont pris garde à bien accorder les parties ensemble. Tantôt ils ont fait une bouche riante et des yeux tristes, et tantôt des yeux gais et des joues relâchées. Et c'est ce qui met dans leur ouvrage un air faux et contraire aux effets de la nature. Il faut donc prendre garde qu'au même temps que le modèle se donne en air riant, les yeux se serrent, les coins de la bouche s'élèvent avec les narines, les joues remontent et les sourcils s'éloignent l'un de l'autre. Mais si le modèle se donne un air triste, toutes ces parties font un effet contraire. Les sourcils élevés font un air grave et noble, mais étonnés s'ils sont en arc. Parmi toutes les parties du visage, celle qui contribue davantage à la ressemblance, c'est le nez. Et il est d'une extrême conséquence de le bien placer et de le bien dessiner.
En vous écoutant lire Thomas Lévillaine, je pensais à tous les portraits que l'on peut voir dans votre peinture de ces dernières années. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce geste-là ou dans ce genre-là de la peinture, le portrait ?
Bah, c'est presque un des plus beaux, c'est de la présence, quoi. C'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un qui existe. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et d'un coup, on a une présence comme ça un peu. Un tableau, c'est autre chose qu'une image, enfin, c'est une présence, quoi, voilà. Et là, ce qui est intéressant dans Roger Depile, c'est qu'il est en plein querelle, une querelle qui intéresse plus grand monde, mais c'est pas vrai, en fait, ça intéresse tout le monde. C'est la querelle du dessin et du coloris. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus important de bien dessiner ou est-ce que c'est plus important d'avoir des belles couleurs et une émotion et une chose comme ça qui fait qu'il y a un effet d'ensemble qui est, donc là, il défend le coloris, quoi. Donc c'est le coloris de Rubens contre celui de le dessin de Poussin. Et c'est des questions esthétiques qui, moi, me passionnent complètement parce que je pense qu'elles sont partout, tout le temps, dans n'importe quel, même dans la manière dont on fait des effets spéciaux, ça raconte quelque chose. Il y a des effets spéciaux qui sont flous et qui vont dans le geste comme ça, et puis des effets spéciaux qui sont très précis. Dans le jeu vidéo, c'est pareil. Vous voyez, on a toujours un effet waouh à quel point les jeux vidéo, les uns après les autres, on croit que c'est la réalité, puis en fait, on arrive à monter encore en gamme. Mmh. Puis d'un coup, il y a un peu trop de cheveux. Alors, s'il y a trop de cheveux dans les jeux vidéo, d'un coup, bah, il y a un petit côté artificiel qu'on n'aime pas trop. Donc, d'un coup, faut rabaisser. Enfin, voilà. C'est des questions qui se posent là au XVIe siècle, quoi, au XVIIe. Et puis le...
Donc c'est ça que vous cherchez quand vous peignez des visages, quand on entend là, par exemple, la place du nez, vous cherchez la présence, quoi, cette...
Oui, moi je cherche... Oui, puis il y a... Qu'est-ce que je cherche quand je prends des portraits?
Je sais pas, peut-être vous cherchez pas.
Déjà... je cherche qu'est-ce que c'est que faire un portrait. Voilà, ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ça vient d'un texte notamment qui m'a beaucoup libéré, qui s'appelle « Innovation et répétition » de René Girard. Et René Girard décrit le fait qu'on n'innove pas comme ça. En fait, on innove souvent en copiant. Donc il prend un exemple que j'aime beaucoup, qui est le fait que en Angleterre, ils ont des prises électriques sans prise de terre, donc ils ont plein de problèmes encore aujourd'hui, parce que comme c'était les premiers à avoir fait les prises électriques, ils n'ont pas de prise de terre. Quand on va en Europe, comme en France, on a une prise de terre, ce qui fait qu'il y a moins d'incendies ou de choses comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a copié les prises électriques anglaises et on a fait un peu mieux. Et c'est comme ça qu'on innove, c'est en copiant et en faisant un peu mieux. Voilà. Et ça, je pense qu'en peinture, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on innove en revivifiant quelque chose de classique, quoi. Donc le portrait, moi ce qui m'intéresse quand je fais un portrait, c'est de rejouer ce jeu-là et de savoir pourquoi c'est, alors ça se fait inconsciemment ou un petit peu consciemment ou un petit peu intellectuellement, mais le remettre de l'enjeu là-dedans, voilà. Sachant que les premières peintures presque figuratives, c'est les peintures du Fayoum où c'est des gens qui posaient pour leur propre tombe, d'avoir leur portrait comme ça. Donc c'est quand même une vieille histoire, quoi. Voilà.
Le troisième choix de cette bibliothèque, Thomas Lévillaine, se tourne vers un poète. Un poète du XXe siècle, on va d'abord l'écouter, c'est Francis Ponge, ici dans une archive de 1980, dans l'émission Radioscopie sur France Inter.
Je pense que le monde des mots est un monde aussi matériel, si l'on veut, que celui des choses, que les choses du monde extérieur. Et que pour faire quoi que ce soit de valable, dans le moyen d'expression qu'on a choisi, il faut être au moins aussi sensible à ce moyen d'expression, c'est-à-dire pour un écrivain au mot, qu'aux objets du monde extérieur, au moins autant. Enfin, certainement, ce qui pousse à écrire, c'est l'émotion que vous procurent les objets, les choses du monde extérieur, être, personne, paysage, objet, purement et simplement. Mais c'est cela qui produit la pulsion, c'est l'émotion que vous ressentez. Mais comme nous devons rendre cette émotion, la communiquer autant que possible par le moyen d'objets du monde verbal, eh bien, il faut aussi être très sensible à ce monde-là, c'est-à-dire considérer les mots également comme un monde quasi extérieur.
À chat perché, je ne peux m'expliquer rien au monde que d'une seule façon, par le désespoir. Dans ce monde que je ne comprends pas, dont je ne peux rien admettre, où je ne peux rien désirer, nous sommes trop loin de compte, je suis obligé par surcroît à une certaine tenue, à peu près n'importe laquelle, mais une tenue. Mais alors si je suppose à tout le monde le même handicap, la tenue incompréhensible de tout ce monde s'explique, par le hasard des poses où vous force le désespoir. Exactement comme au jeu du chat perché. Sur un seul pied, sur n'importe quoi, mais pas à terre. Il faut être perché, même en équilibre instable, lorsque le chasseur passe. Faute de quoi il vous touche, c'est alors la mort ou la folie. Ou comme quelqu'un surpris fait n'importe quel geste, voilà à tout moment votre sort. Il faut à tout moment répondre quelque chose alors qu'on ne comprend rien à rien. Décider n'importe quoi alors qu'on ne compte sur rien. Agir sans aucune confiance. Point de répit. Il faut n'avoir l'air de rien, être perché. Et cela dure. Quand on n'a plus envie de jouer, ce n'est pas drôle. Mais alors tout s'explique, le caractère idiot saugrenu de tout au monde, même les tramways, l'école de Saint-Cyr et plusieurs autres institutions. Quelque chose s'est changé, s'est figé, en cela, subitement. Au hasard, pour chasser par le désespoir. Oh, s'il suffisait de s'allonger par terre pour dormir, pour mourir, si l'on pouvait se refuser à toute contenance, mais le passage du chasseur est irrésistible. Il faut, quoi qu'on ne sache pas à quelle force on obéit, il faut se lever, sauter dans une niche, prendre des postures idiotes. Mais il est peut-être une pause possible qui consiste à dénoncer à chaque instant cette tyrannie. Je ne rebondirai jamais que dans la pause du révolutionnaire ou du poète. Il suffit d'abaisser notre prétention à dominer la nature et d'élever notre prétention à en faire physiquement partie pour que la réconciliation ait lieu. Quand l'homme sera fier d'être non seulement le lieu où s'élaborent les idées et les sentiments, mais aussi bien le nœud où ils se détruisent et se confondent, il sera prêt alors d'être sauvé.
Vous venez, Thomas Lévillaine, de dire deux extraits d'un Francis Ponge, donc le texte « À chat perché », 1929-1930, qui est paru dans « Proème » en 1948. Le deuxième petit bout est aussi dans « À chat perché » ».
Non, c'est « Méthode », et ça, c'est dans un chapitre qui s'appelle « Le monde muet et notre seule patrie
voilà. »,
qui est juste le titre préféré du monde, que j'adore.
« Le monde muet et notre seule
patrie ». Ah oui, c'est génial.
Et le premier, donc, c'est bien « À chat perché » dans « Proème ». Ben, rapidement, pourquoi Ponge et pourquoi ces deux extraits-là?
Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de cagneux qui vont regarder en me disant « Mais qu'est-ce qu'il a aimé ce genre de pain ?» C'est-à-dire qu'on apprend ça, Francis Ponge, on l'apprend beaucoup en cagne et tout ça. Et moi, j'ai eu la fraîcheur de découvrir ça par hasard.
Enfin, on apprend ça en cagne quand on va à Cagne. Hein,
oui, oui, non, mais voilà. Non, mais je trouve que il est meilleur que l'école, quoi. Voilà. Et je dois dire que c'était vraiment un plaisir absolu de le lire. Alors, il est plus connu pour des morceaux de poésie où il parle
de
l'huître, enfin voilà, oui. De comment on ouvre une porte, des choses comme ça. Où il ramène quelque chose quand même de très beau et de, enfin pour moi c'est presque un primitif sur le monde futur, enfin sur les avenirs, l'avenir qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire être un peu décentropocentrisé, c'est on s'occupe un peu moins des humains. J'ai vu une interview de lui où il dit bon Hamlet ça va, on a un peu fait le tour, ça m'a fait rire, et s'occuper un peu plus des choses, des objets du monde et essayer de comme ça revivifier ou renforcer notre rapport au monde, habiter mieux le monde, comme dirait Bruno Latour, c'est vraiment se prendre plus soin des choses en les regardant mieux, en les goûtant mieux, et donc c'était vraiment comme un vrai plaisir de ne pas se sentir seul, parce que d'un coup,
oui,
j'étais moins seul.
Oui, qui est d'ailleurs littéralement ce qui est dit dans le deuxième extrait que vous avez lu, c'est-à-dire il suffit d'abaisser notre prétention à dominer la nature et d'élever notre prétention à en faire physiquement partie pour que la réconciliation ait lieu.
C'est un peu l'anti-Elon Musk, quoi. Il y a un truc comme ça où c'est vraiment
c'est assez proche de pensée très contemporaine du vivant.
Ouais. Avec ce petit problème qui m'intéresse beaucoup, c'est il y a un petit côté moral qui est un peu agaçant.
Mais on fait ce qu'on peut, parce que là, on est quand même dans les années 30.
Oui, mais c'est une vraie question par rapport à l'écologie, c'est comment faire de l'écologie sans morale, enfin voilà. Donc c'est une vraie question de comment trouver la bonne forme, c'est un vrai enjeu, quoi.
Et la forme littéraire et poétique, en tout cas, là, ça fonctionne pour vous?
Oui, et alors l'autre chose aussi, c'est que plus ça va, plus je m'intéresse à la poésie, parce que la poésie, c'est très court, donc à ce côté-là, on n'a pas le temps de lire, et d'un coup, c'est de la dynamite, il y a un côté radioactif quand on lit. Donc là, je lis beaucoup Aragon en ce moment, parce que c'est un peu celui qui... Enfin, il me fascine par le côté, je lousse tout le temps, mais j'en fais des trucs géniaux. Je trouve ça fascinant, sa vie. Enfin, et je dois dire que quand je me sens pas bien sur la situation des peintres en France, je pense à la situation des poètes en France, qui est encore plus... difficile, et alors que je pense que justement ça fait partie des solutions concrètes. On a un peu l'impression qu'il faudrait en faire un grand carnaval, bah, comme dans Un chat perché, et que tout ce qui n'est pas valorisé aujourd'hui le soit un peu plus.
Un carnaval au sens de l'inversion des valeurs.
Ouais, d'inverser tout ça. Moi, on m'a toujours reproché de faire plein de trucs dans tous les sens, que si d'un coup j'étais acteur parce que j'avais fait un film pendant une semaine, d'un coup je suis acteur jusqu'à la fin de mes jours.
Je l'ai dit en introduction.
Non, j'ai pas ça contre vous du tout, non, parce que là vous avez donné plein de trucs. Vous avez dit que j'ai mille vies, ce que j'ai pas vrai du tout. J'ai une vie sordide, toute petite, qui reste enfermée chez moi, avec des fois les petites activités. Mais le fait est que là, j'ai organisé au Musée d'Orsay une exposition qui s'appelait Le Jour des peintres, avec 80 peintres, comme ça, un grand barouf. Et puis d'un coup, il faudrait que je sois curateur ou je sais pas quoi. Bah non, on peut très bien tout faire.
Mille vies.
Et ça aussi, je tiens à le dire, c'est que l'histoire de l'art, ça m'a appris cette liberté-là aussi. C'est-à-dire que quand j'ai appris que Chardin était tapissier du roi, c'est-à-dire que c'était lui qui accrochait les tableaux pour tout le monde au Louvre, c'est quand même hyper drôle, quoi, de se dire bon bah Chardin, il peut être super peintre de génie, et en plus accrocher les tableaux de tout le monde, quoi. Voilà, il y a ce côté-là, ça donne de l'imagination de voir la vie des peintres plus anciens.
Et de la liberté.
Et de la liberté, ça, oui, oui.
On va peut-être entrer dans un moment plus sombre. Vous avez dit ma bibliothèque, il y a plusieurs moments. Il y a le moment où la vie est douce et belle et vivifiante. Mais bon, pas que, on l'a déjà entendu. Et puis, il y a un moment plus compliqué, voire horrible. Votre quatrième choix se tourne, Thomas Levillan, vers un texte de Reznikov, paru en 1975, initialement dans sa version originale, qui s'appelle Holocauste.
Oui, alors ça, pareil, c'était un... Holocauste de Reznikov, on appelle ça un poète objectiviste. Voilà. Et donc, il a pris des témoignages, de survivants. Et il en fait des cut-up. Et il fait des textes très, 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 très petits, comme ça. Très ciselés, où il dit la vérité. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus, presque, c'est une question esthétique, c'est qu'il joue avec de la dynamite. Et il est très, très peu présent en tant qu'auteur dans l'histoire. Et c'est, alors je l'ai pas lu dans l'édition que je vous ai amené, parce que je crois que j'ai prêté mon livre et j'aurais pas dû parce qu'on l'a pas rendu. Mais
tu peux voir l'édition que vous avez.
Ça, c'est l'édition avec une traduction de Markowitz, mais c'était une autre édition quand je l'ai découvert, et on se prend un coup à chaque page, quoi. Enfin, il y a un côté livre de prière presque à raconter vraiment, voilà, ce que c'est. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très vif, très premier degré. Sans grandiloquence aussi, ce qui est vraiment moi un truc qui me choque beaucoup, la manière de raconter les drames ou des choses comme ça, c'est quand il y a de la grandiloquence. Et là, je trouve qu'il y a un truc très juste dans sa manière de très plate. Enfin voilà, c'est quelque chose qui.
Donc vous allez lire dans la traduction de Markowitz.
Voilà, allez. Parce que j'ai pas retrouvé le. Mais ça allait très bien. C'est un peu dur de le lire au doigt parce que c'est comme un. Enfin, il y a un côté livre de prière, quoi. Donc dedans, je vais le faire un peu neutre parce que c'est pas voilà. Des femmes juives ont été mises en rang par les troupes allemandes qui contrôlaient le territoire, ont reçu l'ordre de se déshabiller et sont restées debout en sous-vêtements. Un officier qui regardait cette rangée de femmes s'est arrêté pour regarder une jeune femme, grande, de longues tresses, des yeux magnifiques. Il l'a regardée un certain temps, puis il a souri et lui a dit « Fais un pas en avant ». En état de choc, comme toutes les autres, elle n'a pas bougé. Il a répété « Fais un pas en avant ». Tu n'as donc pas envie de vivre ? Elle a fait ce pas en avant, et il lui a dit « Quel dommage d'enterrer une beauté comme ça. Pars, mais ne te retourne pas. Il y a la rue qui mène au boulevard. Prends-la. » Elle a hésité, puis s'est mise à marcher comme il le lui avait dit. Les autres femmes la regardaient, certaines l'enviaient sans aucun doute, qui marchaient lentement, pas à pas. Et l'officier a sorti son revolver et lui a tiré dans le dos.
Vous découvrez quand Holocauste de Reznikov ?
Alors je pense que c'était il y a 15 ans. C'était... Non, c'est il y a longtemps. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il a écrit ça, il avait 81 ans. Enfin, il y a un truc comme ça de... Avant, il avait fait ça avec Il avait fait testimony, c'était des gens qui témoignaient chez le juge. Et il avait fait des histoires comme ça sur l'Amérique, qui étaient super aussi. Mais j'ai découvert ça, Holocaust, par hasard, un petit livre noir comme ça.
Et des lectures sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale,
sur le
massacre des Juifs d'Europe, c'est quelque chose qui fait partie de votre bibliothèque ?
Oui, beaucoup. Alors, pour une raison assez simple, c'est que j'ai mon côté Lévi, c'est le martyr de la Shoah, c'est-à-dire que mon grand-père était le seul à pas y être allé à Auschwitz. Et du côté du côté Lannes, c'est la grande collaboration. Donc c'était un sujet et là ce livre il date de 75 hein, ouais. Donc il faut du temps pour que ça se... Donc ça, il y a aussi Joanne Chapoutot qui a écrit beaucoup sur la culture nazie comme ça, que j'ai trouvé très passionnante, parce que au lieu d'en faire quelque chose de... Donc c'est un historien, et au lieu d'en faire quelque chose de le mal, il en fait une culture. Et donc il décrit la logique nazie en fait, et c'est très très passionnant. Puisqu'en fait, la logique nazie, c'est quoi ? C'est la logique de tout le monde. C'est la colonisation, c'est l'industrialisation, c'est le nationalisme, c'est le racisme. Et c'est juste poussé un petit peu plus. C'est l'antisémitisme, mais c'est poussé un peu plus, quoi. Et là, il décrit des logiques qui sont très proches de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, on va tuer des enfants parce que plus tard, ils vont nous tuer, quoi. Ou des choses comme ça, enfin, des actes comme ça de légitimité qui sont... Faire des discours complètement fous, enfin voilà. Je sais pas comment dire, c'est très important pour moi, mais je sais pas comment le dire.
Bah vous l'avez dit comme ça, peut-être,
ouais,
voilà.
Non, parce qu'il y a aussi tout un discours qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale sur on ne peut plus représenter la figure, on peut, comme vous disiez, on peut faire des portraits, des choses comme ça. Ça, c'est peut-être... c'est dans Les Phares de Baudelaire où il parle du fait qu'on peint pour la dignité humaine, quoi, voilà. Alors, il parle d'un ardent sanglot qui court d'âge en âge. Donc ça, moi, quand j'étais jeune, l'ardent sanglot, je le sentais à mort, j'étais romantique et tout ça. Puis en fait, plus ça va, plus je trouve que c'est la dignité qui est importante dans l'histoire. C'est-à-dire de faire de l'art pour la dignité humaine, pour dire, OK, tout est raté, au moins on a été bon là-bas. Enfin, on a montré qu'on aurait pu. Voilà, il y a un truc comme ça qui est assez terrible, hein, mais voilà.
Le dernier texte que vous avez choisi de partager avec nous, c'est un texte qui s'appelle « Triste tigre » de Neige Sino.
Ouais.
Est-ce que vous voulez en dire quelques mots ?
Oui, alors ça c'est...
C'est un roman très contemporain.
C'est un roman très contemporain que je dois dire que je n'ai pas lu, que j'ai écouté en livre audio, parce que à force de travailler sur des tableaux qui mettent beaucoup de temps et où je fais d'un coup des espèces de plongées des fois sur des plantes pendant, je sais pas, 3 semaines sur une plante, je me suis mis à écouter des livres audio et ça m'a rouvert des choses de manière... C'est-à-dire, d'un coup, j'avais besoin de faire des grands livres, de prendre des grands livres. Donc, je me suis mangé des Balzac, des Zola, Albert Camus, enfin, des choses comme ça. Et c'est un vrai plaisir, d'un coup, de peindre avec ce livre audio-là, parce que je sais qu'il y en a pour 45 heures, que c'est des grands. Et c'était, alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui marchent pas du tout. Flaubert, ça passe pas du tout. C'est-à-dire, j'arrive pas à écouter en peignant. Mais, par exemple, Dostoïevski, ça passe. C'est génial. Enfin, donc, c'est un vrai plaisir. Et j'ai particulièrement un plaisir à écouter les auteurs qui se lisent eux-mêmes. Donc, il y avait Neige Sino, il y a Yasmina Reza aussi. Ce qui est très drôle, c'est Emmanuel Carrère, quand il se lit, on entend qu'il a envie de retoucher, il a envie de retoucher son texte. Enfin voilà, il y a des choses comme ça que je trouve très...
Et Neige Sino... Vous avez écouté Neige Sino.
Donc j'ai écouté Neige Sino.
Sorti en 2023.
Et je trouve que justement, elle parle du mal... d'ailleurs, elle parle donc d'un inceste de son beau-père. Elle parle aussi de ce que c'est que l'inceste, c'est de la violence. Elle parle de ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, et elle fait une espèce de, comme un peu comme Oedipe, elle fait une espèce d'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment le raconter, avec énormément de délicatesse. C'est ça qui est. Elle tourne autour des choses avec énormément de délicatesse. Elle veut pas blesser le lecteur, mais elle veut pas non plus le protéger.
Oui, sans les éviter. Par
non, non, non. La question, c'est comment bien dire les choses, quoi. Et ça, c'est quand même. C'est presque un espoir avec le mouvement MeToo, des choses comme ça. C'est-à-dire le fait qu'on peut d'un coup prendre la société, lui faire voir les choses autrement et que ça marchotte, ça commence à marcher. Mais on sent bien que ça bouge des lignes, ça bouge des choses. Et ça donne beaucoup d'espoir. De se dire, ça met du temps, ça met beaucoup trop de temps, mais par contre, ça... Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé l'avoir en interview. Et par exemple, face à Alain Finkielkraut dans Réplique, où il était... clairement pas du tout, on va dire, formé, où il était très très maladroit sur plein de choses, et elle, très patiemment, disait qu'elle n'était pas d'accord, mais elle essayait de le reprendre, enfin voilà, il y avait cette chose-là que je trouvais très fine. Et...
Vous avez choisi un passage en particulier.
Et alors le passage que j'ai choisi, c'est le pire, c'est vraiment le moment où j'ai fait, là c'est le vertige, Peut-être je le lis.
Allez-y, ouais.
Ouais. S'il y a des enfants, faut pas écouter. Ou des gens sensibles. Ou des gens trop sensibles. Ou des gens qui ont, voilà. Enfin, vous avez compris. Ma fille a 10 ans. Elle a toujours aimé les caresses, les massages. Souvent, avant de s'endormir, elle me demande de lui passer les mains dans les cheveux, de lui caresser le dos. Elle s'endort comme ça, doucement. Ma main glisse sur son petit dos tout lisse. Elle est encore dorée de l'été. Elle est fluette, comme je l'étais moi aussi. On sent ses vertèbres qui dépassent comme de petites collines toutes dures sous la peau. Je monte et descends le long du dos, comme elle aime. Je suis seul avec elle, dans sa chambre, et j'imagine ce que je pourrais lui faire. Il suffirait que ma main change de direction, qu'elle descende dans sa culotte. Je pourrais caresser sa petite fente si je voulais. Elle serait tellement surprise qu'elle n'oserait rien dire. Je pourrais mettre mon doigt dans son cul. C'est à quelques centimètres, et nos vies en seraient changées à tout jamais. Ma main s'est arrêtée. J'ai envie d'allumer la lumière, de partir. Maman, encore ? Je recommence, les caresses dans le dos. Je calme ma respiration, juste par curiosité, pour voir ce qui se passe. Faire quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en a qui passent à l'acte juste par défi, pour briser le miroir, voir ce qui arrive si on ne respecte pas les règles du jeu ? Je suis presque sûr qu'il ne dirait rien. Ou bien si elle disait quelque chose, je pourrais la manipuler facilement pour qu'elle ne résiste pas. Je pourrais la cajoler, lui faire croire que c'est juste un câlin, faire un peu de chantage comme quand je cherche à obtenir d'elle qu'elle range sa chambre. Du chantage au dessin animé du samedi. Si tu ne fais pas ce que je dis, pas de télé. Ou menacer. Lui dire que si elle me dénonce, je vais être très malheureuse. Notre vie de famille sera foutue. Je pourrais même aller en prison. C'est ça que tu veux ? Maman, tu t'es encore arrêtée. Si tu fais pas bien, je vais pas m'endormir. Je me concentre. J'essaie de faire bien pour qu'elle s'endorme, sortir de cette bulle de douceur et d'obscurité. Je joue avec ses pensées, je me torture vaguement. J'ai la certitude absolue que je ne vais pas lui faire de mal. Mais je peux sentir la frontière entre le bien et le mal. Je peux deviner ce qu'ils ressentent, ce rush d'énergie folle qui te traverse. Cette adrénaline, l'excitation sexuelle en moi, mais ça pourrait peut-être venir. Maman, j'ai plus sommeil maintenant, tu me racontes une histoire ?
Vous avez parlé de vertige, mais à vous écouter, et pourtant c'est un texte que j'ai lu, puis cet extrait-là m'avait évidemment énormément marqué, Thomas Lévillaine. C'est un vertige physique qu'on ressent même à la lecture. En tout cas, moi, je ressens un vertige physique à vous écouter. Pourquoi vous avez choisi cet extrait-là en particulier ?
Parce que c'est comment on est maudit, c'est-à-dire comment on n'a pas de... Il n'y a pas de solution, en fait. Enfin, elle le dit d'ailleurs, il y a un moment donné, elle fait une fausse apienne dans le livre, et elle montre comment elle est maudite par cette histoire. Et je sais pas. Moi, quand je lis ça, je peux pas voir le monde. Le monde a changé, quoi. Voilà. Moi, j'appelle ça les gens chaos. C'est-à-dire elle décrit ça à la fin quand elle reconnaît des gens qui ont vécu des choses similaires ou des choses comme ça. C'est quoi les gens chaos ? C'est les gens qui savent qu'il n'y a pas d'ordre, en fait, et que tout est friable, tout est chaos. Enfin, tout peut disparaître. On voit plein. D'ailleurs, ça revient à Chaperché, mais c'est considérer que les choses sont très 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 fragiles, quoi. Que c'est très très précieux, en fait, c'est que c'est très très, et donc ça, cette
dans la limite, par exemple, du basculement vers l'horreur, vers le drame, vers la violence extrême.
On est dans un truc très domestique, qui est le truc le plus doux de la terre. Et en fait, elle, comme elle a vécu un drame, en gros, on lui a volé son innocence. Elle sait qu'elle peut être un bourreau, quoi. Voilà. Et ça, c'est donc moi, j'ai pas. C'est une vraie. Ça reste un mystère, hein, pour moi. Mais c'est comment. Comment les choses changent, comment la sensibilité peut être plus marquée. Et donc moi, je trouve que ce genre de texte, ça passe complètement. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas abîmé, on voit mieux. Voilà, on n'est pas abîmé. Donc là, il y a aussi le podcast dont elle parle aussi dans le livre, qui est ou peut-être Une nuit là, qui est vraiment un chef-d'œuvre de podcast. Où vraiment la question, c'est l'inceste, c'est pas un tabou, c'est le fait d'en parler, quoi. Et ça, c'est enfin moi, c'est des questions, c'est la question du saccage, quoi. Voilà, c'est tout con. Enfin, que ça soit la Shoah ou enfin. Évidemment, je ne mets pas d'égalité ou des choses comme ça, mais c'est la question du saccage. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une société qui ravage tout, qui détruit tout, qui prend, qui utilise, qui jette, et comment il faudra que peut-être ça change, parce que de toute façon, là, c'est pas. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait que si on arrive à changer la manière, je ne sais pas, je pense à Me Too Cinéma ou des choses comme ça, si ça arrive à bouger comme ça, c'est un petit espoir sur le fait que ça bouge dans d'autres endroits, donc comment on vit, notre manière de vivre, ça va devenir insupportable, quoi. Quand on aura nos forêts d'enfance qui auront brûlé, qu'on aura trop chaud, que ça sera... Comment on va réussir à changer notre manière de voir le monde et rendre désirable... Alors, j'essaie de m'exprimer, pardon. Ça m'émeut, ces trucs-là. C'est drôle. C'est drôle, parce que quand je parle de mon boulot à moi, ça m'émeut pas du tout, mais alors... En gros, c'est la question, c'est est-ce qu'on a une renaissance par rapport à, avec la qualité de ce que ça a été la renaissance au XVIe siècle, c'est-à-dire vraiment, on renverse les valeurs, on change ces choses-là. Qu'est-ce que serait la renaissance? Ça serait de considérer que bon, prendre des voitures, ouais, super, arrêter de croire que voyager dans tout partout dans le monde, c'est génial, d'avoir comme ça une espèce de d'imagerie collective qui se transforme. Je pense que ça va se faire quoi qu'il arrive. Hein. La question, c'est à quel moment ça se fait. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à, comme la peinture, ça s'inscrit dans le temps et dans le et dans une espèce d'idée de continuité de temps qui dure, bah, je préférais que ce soit la Renaissance. Quoi.
Merci beaucoup, Thomas Lévillane, d'avoir déballé pour nous votre bibliothèque pour
Merci
le Book
Marie.
Club.
Je me plonge à l'envers, attiré par l'extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine.
Prise de son pour cette bibliothèque, c'était Alexandre Dang, à la réalisation Vivien Demeyer. Tous nos portraits de bibliothèque s'écoutent sur franceculture.fr, la collection entière. Et pour retrouver les références des textes lus et cités par Thomas Lévillane, c'est aussi la même page. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et singulièrement aujourd'hui à Noé Margas.